franceinter.fr. François Rivière.
Woodhouse a de commun avec un autre illustre écrivain anglais, Kipling, d'avoir vécu son enfance loin de l'Angleterre. Et du coup, il a toujours eu un regard un peu distancié, qui était pour lui le principe même de l'humour, enfin en tout cas des choses qui lui permettaient d'avoir un peu d'humour.
Ça peut pas faire de mal.
L'humour anglais, il a deux grandes caractéristiques, c'est le nonsense et l'understatement.
Jean-Louis Chifflet.
Alors le nonsense, c'est quoi? C'est l'absurde, hein, c'est une prise de conscience du ridicule d'une situation. Et puis l'understatement, ça pourrait se traduire en français par la litote. Et c'est une façon aussi de diminuer la réalité par l'indifférence du ton. Et c'est ça toute la force de l'humour anglais.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Je suis Charlie. C'était une belle matinée d'été. Dans le hall, les aiguilles du coucou marquaient 9h30. Dans le petit salon, celle de la pendule rococo, 10h11. Et celle de la montre d'auto, 6h14. En d'autres termes, il était exactement 8h. Telle était la vie de Mrs. Hignett, qui ouvrit les yeux et se mit sur son séant. Elle s'éveillait toujours à 8h précises. Était-ce donc là Mrs. Hignett, l'écrivain théosophe célèbre dans le monde entier? Oui, c'était elle. Une tournée de conférences l'avait amenée ici, en Amérique. À cette époque, les États-Unis supportaient une dure épreuve. Presque chaque paquebot venant d'Europe amenait dans le pays une nouvelle troupe de conférenciers anglais qui semblait avoir été touchée par quelque instinct grégaire. Mais Mrs. Hignett n'avait pas quitté l'Angleterre sans angoisse. Plus que tout au monde, elle aimait son « home » charmant de Windles dans le comté du Hampshire. Windles lui était aussi cher que sa propre vie. Malheureusement, en se plaçant strictement et froidement au point de vue légal, Windles ne lui appartenait pas. Elle en avait simplement la garde jusqu'au moment où son fils Eustache, venant à se marier, il en prendrait lui-même la possession. Et il y avait des moments où cette pensée glaçait Mrs. Hignett jusqu'à la moelle des os. Mais sa ferme politique consistant à garder son fils chez elle et à lui défendre toute conversation avec une femme au-dessous de 50 ans avait laissé jusqu'ici ce péril en suspens. Eustache avait d'ailleurs accompagné sa mère en Amérique. Il se lèverait à 9h30. Mrs. Hignett s'assit à son bureau et commença à parcourir les notes qu'elle avait réunies la veille. Mais à peine avait-elle réussi à concentrer ses facultés que la porte s'ouvrit. « Ma'am, il y a monsieur. »« C'est intolérable !» cria Mrs. Hignett. « Ne lui avez-vous pas dit que j'étais occupée ?»« Non, je l'ai mis dans la salle à manger. Son nom est Bream Mortimer. » Mrs. Hignett marcha à grands pas vers la porte. Elle se rappelait ce Bream Mortimer. Il était le fils de Monsieur Mortimer qui convoitait Windles. « Bonjour, Monsieur Mortimer. »« Bonjour, ma'am. Il faut que je vous dise un mot en particulier. Vous savez, je ne suis pas un homme à me mêler des affaires des autres, à faire des ragots avec les domestiques. Je ne suis pas un homme à... » Mrs. Hignett ne se montra jamais une femme très patiente. « Monsieur Mortimer, » dit-elle sèchement, « je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de votre compétence. Si vous n'avez pas d'objection à concentrer pour un moment votre attention sur ce sujet, veuillez me dire l'objet de votre visite. C'est le mariage. » « Quel mariage ? Le mariage de votre fils ? Mais mon fils n'est pas marié. Non, mais il va l'être à 11h ce matin à la petite église au coin de votre rue. Seriez-vous fou par hasard ? Fichtre, si vous pensez que j'en sois déjà si content moi-même, voyez-vous, je suis moi aussi amoureux de cette jeune fille. Mais qui est-elle ? Je le suis depuis des années. Vous savez, je suis de ces garçons silencieux et patients. J'ai toujours été de ces hommes. Monsieur Mortimer, avec votre permission, nous considérerons également comme admises vos qualités positives. Me direz-vous enfin qui est cette jeune fille? Bennett. Bennett. Wilhelmina Bennett? La fille de Monsieur Rufus Bennett? La jeune fille rousse avec laquelle j'ai déjeuné chez votre père? C'est ça. Je pense que vous feriez bien d'arrêter l'affaire. J'en ai l'intention. De toute façon, ce mariage ne serait pas assorti. Miss Bennett et mon fils ne vibrent pas à l'unisson. Leurs corps astraux ne sont pas de la même couleur. Mrs. Hignett était une femme aux décisions immédiates et rapides. Son visiteur parlait encore que déjà des plans se formaient dans son esprit, semblables à des bouillons à la surface d'une rivière impétueuse. Et la porte se fermait à peine sur Bream Mortimer que déjà pas moins de 7 plans, tous bons, étaient à sa disposition. C'étaient les premières pages du roman de P.G. Woodhouse, « Les caprices de Miss Bennet ». Ce livre à l'humour très anglais fut publié en 1922. Et cette année, il est réédité aux éditions Les Belles Lettres dans l'excellente traduction de Marguerite Davenel. On y retrouve tout ce qui a fait la célébrité de son auteur, le goût pour les situations insolites, les déclarations d'amour rocambolesques et bien sûr toute une série de personnages excentriques. Après avoir créé Jeeves, le valet de chambre le mieux informé d'Angleterre, Woodhouse dresse le portrait de Miss Bennet, une très jolie jeune fille qui n'a Dieu que pour son chien et qui est courtisée par trois hommes. Le timide Eustache Hignett, le maladroit Bream Mortimer et le séduisant Samuel Marlowe. Alors, qui des trois va l'emporter ? Réponse ce soir dans cette première émission de l'année 2015 que nous allons passer en compagnie du plus drôle des romanciers britanniques. Après avoir appris la nouvelle, Mrs. Hignett a tout mis en œuvre pour annuler le mariage secret de son fils. Dépité et sans nouvelles de Miss Bennet, Eustache Hignett a donc repris le bateau pour l'Angleterre. Mais cet amateur de poèmes, plutôt frêle et introverti, ne sait pas que sa bien-aimée est aussi à bord et qu'elle va faire par hasard la connaissance de Samuel, le cousin d'Eustache, qui va aussitôt tomber amoureux d'elle. Les deux jeunes gens se quittent sans même s'échanger leur nom et Samuel s'empresse d'aller trouver Eustache pour lui raconter cette fabuleuse rencontre. Nous sommes au chapitre 2 du livre. Le bateau vient de quitter le port de New York et voici Samuel qui arrive tout joyeux dans la cabine qu'il partage avec son cousin. « Hello, Eustache !» dit Sam. Eustache Hignett nonchalamment fit un signe de tête et émit un profond soupir. « Hello !» dit-il d'une voix caverneuse. Sam ne l'avait pas vu depuis quelques années et il s'était attendu à quelque chose de plus gai. Pour dire la vérité, il avait compté sur Eustache pour être la vie et l'âme de leur association. Mais l'homme assis devant lui sur sa valise aurait pu difficilement remplir ce rôle, même dans une réunion de romanciers russes. « Sapristi, qu'est-ce que tu as ?» dit Sam. « Qu'est-ce que j'ai ? Oh, rien. Pas grand-chose. J'ai seulement le cœur brisé. Cela te ferait-il plaisir que je te raconte l'histoire ? Va donc. Ce sera très bref. Dès mon arrivée en Amérique, j'ai rencontré une jeune fille. » « À propos de jeune fille, » dit Sam avec enthousiasme, « je viens d'en rencontrer une. La seule au monde qui ait vraiment l'air de quelque chose. » Voilà comment c'est arrivé. J'étais sur le quai, en train de me frayer un passage. « Est-ce moi qui te raconte mon histoire ou toi qui racontes la tienne ?»« Oh, pardon. Continue. » « C'était une jeune fille extraordinairement jolie. Oh, la mienne aussi. Je te donne ma parole d'honneur que de toute ma vie... »« Naturellement, si tu préfères que je remette mon récit à plus tard, » fit Eustache froidement. « Oh, je suis confus. Va toujours. Comment s'appelait-elle ?» Wilhelmina Bennet. C'était une jeune fille extraordinairement jolie et prodigieusement intelligente. Je lui ai lu tous mes poèmes, elle les a énormément appréciés. Elle prenait plaisir à mes chansons et ma conversation semblait l'intéresser. Ah, je vois. Tu lui avais fait, comme qui dirait, une grosse impression. Allons, continue. Ne me bouscule pas, dit Eustache d'un ton dolent. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Je lui ai demandé d'être ma femme et elle a consenti. Elle pensait que son père, s'il apprenait la chose, y mettrait un obstacle. Et quant à maman, j'étais diablement sûr qu'elle le ferait. Aussi, nous décidâmes de nous marier sans le dire à personne. À l'heure actuelle, je devrais être en pleine lune de miel. Et alors, vous vous êtes disputé ? Aucunement. Et cesse donc de m'interrompre ainsi, je te prie. C'est moi qui raconte mon aventure. Voilà ce qui arriva. Maman découvrit le poteau rose et elle arrêta l'affaire. Mais comment ? Elle a chipé mes pantalons. Chipé tes pantalons ? Eustache se mit à gémir. Oui, tous ! Tous sans exception ! Elle a dû venir dans ma chambre les barboter pendant que je dormais. À mon réveil, j'ai voulu m'habiller et je n'ai pas pu trouver dans toute la pièce une seule paire de culottes. J'ai regardé partout. Finalement, je suis allé dans le petit salon et je lui ai demandé si elle ne les avait pas vues quelque part. Elle m'a dit qu'elle les avait tous pris pour qu'on leur donne un coup de fer. Mais je devais être à l'église à 11h. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous très important avec un monsieur. Alors elle a voulu savoir qui c'était. J'ai essayé de trouver quelque chose. Et maman me dit que ce que j'avais de mieux à faire était de décommander mon monsieur par téléphone. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le premier numéro qui m'est tombé sous la main et j'ai prévenu un type que je n'avais jamais vu de ma vie qu'il m'était impossible de le rencontrer parce que je n'avais pas de pantalon. Et pendant tout ce temps, maman qui écoutait, et moi qui savais qu'elle savait, et elle qui savait que je savais qu'elle savait, je te le dis, c'est épouvantable. Et la demoiselle, elle a rompu notre engagement. Probablement, elle a attendu à l'église, puis elle a commencé à s'impatienter. Mais lui as-tu expliqué l'histoire des pantalons ? Oui, mais ce fut encore pire. Elle me dit qu'elle pouvait tout pardonner à un homme, sauf le ridicule. Tu dois être contente d'en avoir fini, remarqua Sam judicieusement. Au fond, cette jeune fille ne valait pas grand-chose. Je m'en aperçois maintenant, mais cela ne change rien au fait que ma vie est brisée. Je suis devenue misogyne. L'embêtant dans tout ça, c'est que pratiquement toutes les poésies que j'ai jamais écrites étaient un hymne à la femme. Maintenant, je serai obligée de considérer ce sujet sous un nouvel angle. Les femmes... Quand je pense à la conduite de maman et la manière dont Wilhelmina m'a traité, je suis vraiment stupéfait qu'il n'y ait pas encore une loi contre elle. Quel malheur, ne sont-elles pas responsables ? Ne sont-ce pas elles qui ont livré le Capitole ?
Le Capitole de Washington ? Dit Sam comme si on lui posait une énigme.
Mais non, à Rome. Pff, idiot, la Rome antique. Ah, oh, qu'est-ce que la vie me réserve ? L'amour, je n'aimerai jamais plus. Mon travail... Je n'en ai pas. Je me mettrai donc à boire.
À propos, dit Sam, je suppose qu'ils ouvrent le bar dès qu'on a dépassé le troisième mille. Qu'est-ce que tu penserais d'un petit verre ? Plus tard, Samuel sort sur le pont et constate qu'un homme est à la mer. Il s'agit de M. Swenson, qui a voulu aller repêcher un billet de $20 tombé à l'eau. Alors pour impressionner la jeune fille rencontrée plus tôt et qui assiste à la scène, il plonge. Et ça fonctionne. L'inconnu revient lui parler et lui donne son nom. Elle s'appelle Wilhelmina Bennett. Celle qui se fait appeler Billy est bien l'ancienne promise d'Eustache. Mais Samuel n'a aucun scrupule. Il veut la séduire et se renseigne même auprès de son pauvre cousin pour savoir ce qu'elle aime. Il apprend vite qu'elle a trois passions dans la vie. Son chien Pinky, le golf et les poèmes d'un certain Tennyson. Ni une ni deux, il part donc la rejoindre sur le pont pour la conquérir. Il va la trouver en compagnie de Brim Mortimer, le jeune homme un peu pataud du début du livre qui aime secrètement Billy et qui fait tout pour lui plaire. Nous sommes au chapitre 3. Sam pose des jalons. Il aperçut tout de suite Billy. Elle portait un de ces jolis manteaux de forme vague qui rehaussent tant les charmes féminins. Et elle parcourait le pont, la brise se jouant dans ses cheveux fous à la manière d'un viking. À côté d'elle marchait le jeune Brim Mortimer. Sam s'était déjà senti un personnage de certaine importance, mais à la vue du sourire de bienvenue qu'il accueillit, l'opinion qu'il avait de lui-même grandit encore. La magie d'un sourire de jeune fille. Quel levain pour faire fermenter la vanité masculine.
« Tiens, vous voilà, Mr. Marlowe, » dit Miss Bennett.
« Tiens, vous voilà, » fit Brim Mortimer avec une intonation légèrement différente. « J'ai pensé qu'un peu d'air frais avant le déjeuner me ferait du bien, » dit Sam.
« Oh, Brim !» fit la jeune fille.
« Hello !» dit-il.
« Soyez un amour et allez porter dans ma cabine ce gros manteau. Je n'avais pas idée qu'il faisait si chaud. »«
Je le porterai sur mon bras, » dit Brim.
« Comment donc ? Je n'ai même pas pensé une minute à vous en charger. Allez le mettre sur ma couchette. Posez-le n'importe comment, ça n'a pas d'importance. »
« Très bien, » fit Brim avec résignation. Et il partit en trottinant.
Il est des moments où un homme sent que pour devenir une voiture de livraison parfaite, il ne lui manque qu'un cheval et un conducteur. C'est ce que Brim était en train d'expérimenter.
Ne trouvez-vous pas qu'il ferait aussi bien de chanter quelque chose au chien pendant qu'il y est ? Suggéra Sam. Il jugeait qu'un homme résolu, ayant des jambes aussi longues que Brim Mortimer, n'avait besoin que d'une demi-minute pour déposer un manteau sur une couchette et être de retour. C'était bien bref.
Oh oui, Brim !
« Hello.
Pendant que vous y êtes, chantez donc quelque chose à ce pauvre Pinky. Il apprécie tant votre voix. »
Et Brim disparut.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. White today,
and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Tout s'est passé comme prévu, enfin presque. Samuel a lu des poèmes de Tennyson à Billy, sans rien y comprendre. Juste après, il lui a déclaré son amour. Ils se sont embrassés et même fiancés. Et puis, il a eu la mauvaise idée d'accepter de réaliser publiquement un numéro de chant qui s'est transformé en fiasco. Le voici au chapitre 7. Il vient de sortir de scène, humilié par Eustache qui devait l'accompagner au piano, mais qui s'est enfui au dernier moment. Et tandis qu'il se morfond tout seul dans sa cabine, il reçoit un message de Billy qui veut le voir immédiatement. Impatient d'être consolé, il se précipite sur le pont pour la retrouver. « Chérie, dit-il à voix basse, je vous reconnais bien dans cette invitation à venir vous retrouver. Je devine ce que vous avez pensé, que j'aurais besoin d'aide et de sympathie, n'est-ce pas ?»«
Non, je n'y avais pas pensé du tout. »«
Oh, vraiment ?» J'ai cru que vous auriez pu vouloir me réconforter, reprit-il. J'ai éprouvé un tel choc.
Et moi donc ? Cria-t-elle avec passion. Je croyais que vous étiez le parfait chevalier, mais je me suis trompée. Vous n'en êtes pas un du tout.
Comment ?
Non.
Oh ! Le silence tomba. Sam se sentait triste et désorienté. Il était arrivé là, s'attendant à être apaisé et réconforté, mais il se trouvait devant un iceberg agressif. Avec cynisme, il se rappela quelques lignes de poésie qu'il avait copiées une centaine de fois au collège comme punition d'avoir introduit une souris blanche à la chapelle. « Ô femme, en nos heures de bonheur, vous me fûtes bien secourable, ne seriez-vous donc pas capable de m'assister dans le malheur ?»« Mais en quoi vous ai-je déplu ?» interrogea-t-il avec humeur. Elle eut un petit sanglot.
« J'avais fait de vous une idole, et j'ai découvert que vos pieds étaient d'argile. Vous avez terni l'image que j'avais de vous. Je vous verrai toujours tel que vous étiez dans ce salon en train de bégayer et incapable de rien trouver pour sauver la situation. »«
Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand votre pianiste fiche le camp et vous plante là sans vous prévenir ?»«
N'importe quoi, mais quelque chose. Je ne peux pas pardonner à un homme de se montrer ridicule. »
Elle frissonna. Puis soudain, avec la décision nerveuse d'une femme que rien ne peut plus toucher, elle lui jeta dans la main un petit pantin à ressort.
« Tenez, reprenez-le. »«
Qu'est-ce que c'est ? » ?»«
Vous me l'avez acheté hier chez le coiffeur. C'est le seul cadeau que vous m'ayez donné. Reprenez-le. »«
Non merci, qu'est-ce que j'en ferai ?»«
Il faut que vous le repreniez, » dit-elle à voix basse. « C'est un symbole. »«
Un quoi ? » ?»«
Un symbole de notre amour brisé. » »«
Je ne vois pas le rapprochement, c'est un pantin à ressort. »«
Je ne pourrai jamais vous épouser maintenant. »
« Hein ? Grand Dieu, ne dites pas de bêtises. Allons donc, prenez votre courage à deux mains sans faire tant d'histoires. »«
Non, c'est impossible, je ne le pourrai pas. Je suis une jeune fille bizarre. »«
Vous êtes simplement une jeune fille stupide. »«
De quel droit osez-vous me dire des injures ? Cria-t-elle très excitée. Et de quel droit refusez-vous de m'épouser et me charger de vos pantins à ressort ? Rétorqua-t-il avec non moins de chaleur.
Elle le regarda tristement. « Ainsi, tout est fini, » murmura-t-il. Et il se mit à rire amèrement. « En fait, j'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû savoir ce qui arriverait. Eustache m'avait bien prévenu. C'est lui qui avait raison, il connaissait les femmes. Moi aussi maintenant. Et de quelles grandes catastrophes ne sont-elles pas responsables ? Adieu, Miss Bennet. »«
Adieu, » fit Billy tristement. « J'espère que vous ne serez pas trop malheureux. »
« Malheureux ? Ah, mais je ne suis pas du tout malheureux. Qui a pu vous donner cette idée ? Vous voyez bien, je souris.
Je ris ? Au fond, je sens que je l'ai échappé belle. Oh là là, je ne suis aucunement malheureux. Pourquoi le serais-je ? Pourquoi, grand Dieu, des hommes tiennent-ils absolument à se marier ? Moi, je ne le veux pas. Parlez-moi un peu de ma chic vie de garçon. Mon oncle Charles avait l'habitude de dire qu'il vaut mieux se marier que d'être guillotiné, mais c'était un homme qui voyait toujours le bon côté des choses. Au revoir, Miss Bennet, et adieu pour toujours. »
Il fit demi-tour et traversa le pont à grandes enjambées. Du haut du ciel argenté, la lune brillait avec indulgence, se riant de lui. Il avait crânement parlé et avait opéré une brillante sortie. Nul ne pourrait le contester, mais déjà il sentait qu'il souffrait. La croisière touche à sa fin, le paquebot a rejoint les rives de l'Angleterre. Samuel et Billy ont rompu leurs fiançailles. Eustache, qui a appris que son cousin était amoureux de la même Miss Bennet, est lui-même tombé amoureux de Jane Hubbard, amie de Billy et accessoirement tueuse d'éléphants. Quant à Brim Mortimer, il est fiancé à Billy et son père a enfin réussi à louer le fameux domaine de Windles pour l'été. Monsieur Mortimer se rend donc dans le Hampshire avec sa garde rapprochée, son fils Brim, son vieil ami Mr. Bennet et sa fille Billy accompagnée de Jane. Là-bas se trouve déjà Eustache, chargé par sa mère de surveiller les nouveaux locataires. Nous voici au chapitre 10. Woodhouse dresse un portrait cocasse de cette joyeuse bande en vacances. Mr. Bennet est d'ailleurs celui qui semble le mieux apprécier les plaisirs champêtres. « Bonjour, monsieur, » dit Webster.
« Bonjour, Webster, » répondit Mr. Bennet. « Il est tard, n'est-ce pas ?»«
Oui, très tard, monsieur. Je vous aurais bien éveillé à l'heure habituelle, mais Miss Bennet trouvait qu'un peu de repos vous ferait du bien. Et elle m'a prié de vous avertir qu'après déjeuner, elle conduirait Mr. Mortimer et Mr. Brim Mortimer à Southampton en auto. Mr. Mortimer Senior voudrait acheter un Panama. »«
Un Panama ?» s'exclama Mr. Bennet.
Voilà qui était de plus en plus merveilleux. Il faisait beau, il avait une fille respectueuse, et il allait voir Henry Mortimer avec un Panama. Vraiment, la Providence le gâtait. Le valet de chambre se retira comme un duc à la fin d'une audience royale. Alors Mr. Bennet versa le contenu du pot dans sa cuvette et commença à se raser. Cela fait, il ouvrit la commode où reposait son pantalon de flanelle blanche, car c'était un jour à le mettre. Il allait le sortir avec précaution quand un reflet rose attira son attention vers un coin du tiroir. Là gisait son maillot de bain couleur saumon. Monsieur Bennet tressaillit. Il n'y avait pas songé, mais après tout, pourquoi pas ? Le lac était tout près, à 50 mètres, scintillant à travers les arbres. Qu'y a-t-il de meilleur au monde qu'un bon plongeon dans l'eau froide ? Il ôta son pyjama et sauta dans son costume de bain. Bientôt, tel le soleil émergeant du brouillard, il sortit de la maison et traversa la pelouse. Ce fut à ce même moment que de derrière un fourré où il venait d'enterrer un os de la veille, Smith, le bulldog, sortit en se dandinant. Il huma l'air frais de son nez retroussé que ses fouilles récentes dans la terre humide avaient rendu quelque peu vaseux. Apercevant Mr. Bennet, il se dirigea allègrement vers lui. Il ne le reconnaissait pas car il classait ses amis d'après leurs parfums respectifs. Aussi s'élança-t-il au petit galop à travers le gazon pour le renifler de plus près. Il était à moitié chemin lorsqu'un peu de boue qu'il avait respiré en enterrant les restes de son déjeuner lui chatouilla les poumons et il s'arrêta pour tousser. Vivement, Mr. Bennet se retourna, puis avec une brève exclamation, il détala à travers le gazon vert. Smith, avec une pause momentanée de surprise, se mit lourdement à sa poursuite en soufflant poussivement de satisfaction. Il devinait que cet homme était un joyeux compagnon de jeu. Mr. Bennett continuait à courir quand il commençait déjà à haleter et à défaillir, lorsque soudain lui apparurent comme dans un rêve les ruines du vieux château voisin qu'il admirait tant. À sa première visite, il en avait surtout apprécié les qualités esthétiques, mais il était loin maintenant d'en dédaigner les qualités pratiques. Il tourna brusquement, d'une enjambée atteignit la base de l'édifice, empoigna une pierre en saillie, posa son pied sur une autre, et au moment où son poursuivant arrivait et s'asseyait essoufflé en dessous, il se faufila vers un rebord où il se jucha, les pieds bien hors d'atteinte. Le bulldog Smith resta là à le contempler, attendant la suite. Ce divertissement lui était inconnu, mais il pouvait devenir amusant. Mr. Bennett se préparait maintenant en hâte à appeler au secours. Son malaise physique s'accroissait. Des insectes, les uns ailés, les autres non ailés, mais pourvus par la nature d'un grand nombre de pattes supplémentaires, avaient entrepris des explorations sur son corps. Ce fut alors que la pluie commença à tomber, d'abord goutte à goutte, comme la légère rosée sur l'herbe, puis à grands flots réguliers. Des heures après, selon l'avis de Mr. Bennett du moins, une voix s'éleva des profondeurs terrestres. Mr. Bennett se pencha et aperçut la silhouette de Jane Hubbard, l'amie de sa fille, qui regardait en l'air. Smith gambadait autour d'elle. « Que faites-vous perché là-haut » demanda-t-elle. « Savez-vous si l'auto est rentré ?»« Non, pas encore, » répondit Mr. Bennett. « Il faut que j'aille chercher le docteur, le pauvre Stachignette est malade. Dans ce cas, j'irai à pied. Viens donc avec moi, Smith. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'avenue, le chien caracolant à ses côtés. Mr. Bennett resta cloué sur place, bien qu'il fût libre maintenant. Ce sinistre mot « malade » agissait sur lui comme un sort. Il était hypochondriaque. « Eustachignette malade !»« Mais qu'est-ce qu'il a ?» mugit Mr. Bennett dans la direction de Jane Hubbard. « Est-ce contagieux ?»« Je le croirais volontiers, » répondit Jane. « Sapristi !» s'écria Mr. Bennett. Et se laissant glisser sur le sol, il prit sa course à travers l'herbe mouillée. Dans le hall, Webster, le valet de chambre, sec et digne, tapotait le baromètre. « Avez-vous quitté la maison ?» demanda Mr. Bennett. « Non, monsieur. »« Alors, vous ne m'avez pas entendu crier ?»« Il me semble bien avoir entendu quelque chose, monsieur. »« Mais pourquoi diable n'êtes-vous pas allé à ma recherche ?»« J'ai cru que c'était des hiboux. »« Monsieur, ils sont très nombreux dans ces parages. » D'un coup, un grincement de frein se fit entendre dehors sur le gravier et la voiture la plus mouillée de toute l'Angleterre s'arrêta devant la porte d'entrée. Durant les 15 derniers kilomètres, M. Mortimer avait nourri une sombre haine contre l'humanité entière et quand il tomba en entrant dans le hall sur Mr. Bennett qui sautillait ça et là et essayait de l'arrêter pour lui raconter une histoire longue et assommante, tout son venin se concentra sur son vieil ami.
« Laisse-moi passer, » dit-il hargneusement. « Ne vois-tu pas que je suis trempé ?»«
Trempé, trempé, moi aussi je suis trempé, » dit Mr. Bennett en s'apitoyant sur lui-même.
« Mon cher papa, » gronda Billy, « vous ne devriez vraiment pas rentrer après un bain sans vous être séché. Vous allez abîmer le tapis. »«
Mais je ne me suis pas baigné !»
Mr. Bennett se mit à sauter avec une irritation muette, mais heurtant son orteil contre une chaise, il saisit son pied gauche dans ses mains et chancela jusqu'à ce qu'il se trouvât soutenu par les bras protecteurs de Webster. Liés l'un à l'autre, ils s'avancèrent tous deux d'un mouvement où l'on retrouvait la vigueur désordonnée d'un cakewalk, uni à la grâce d'une vieille mazurka. « Dis donc, Mortimer, au sujet de ton animal de chien, j'exige qu'on la batte. Cette brute sauvage m'a pourchassé à travers tout le parc. »
Le malheureux Brim, dont le sens de l'humour était simple et enfantin, ne put résister à un tel tableau. Il ricana, et Mr. Bennett se tourna vers lui.
« Oh, ça vous fait rire, n'est-ce pas? Mais si vous croyez pouvoir vous moquer de moi d'une main et épouser ma fille de l'autre, vous vous trompez joliment. Vous pouvez dorénavant considérer vos fiançailles comme rompues. »
Soudain, Webster réapparut. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, mais le déjeuner sera prêt dans 5 minutes. »«
Vous m'apporterez mon déjeuner dans ma chambre, » cria Bennett.
Je vais me coucher. »
Il se sentait un peu mieux quand Billy vint dans sa chambre pour voir comment il allait.
« Alors, papa, avez-vous bien déjeuné ?»
Le déjeuner était excellent. Ce homard... Il passa sa langue sur ses lèvres avec délice. « À propos de homard, continua-t-il, je suppose que Brim t'a dit que j'avais brisé tes fiançailles. »
« Oui, en effet. »
« Tu ne m'en parais guère bouleversé. »
« C'est-à-dire que mes fiançailles semblent destinées à ne jamais aboutir. Savez-vous, papa, je finis par croire que je suis trop impulsive. Je regrette d'avoir commis certains impairs qui auraient pu être évités si j'avais réfléchi avant de me décider. »
« Je ne vois pas en quoi la question de la réflexion intervient en ce qui concerne Mortimer. Tu as mis 10 ans à l'accepter. »
« Oh, ce n'est pas à lui que je pensais, mais à un autre homme. »
« Est-ce que par hasard tu te crois encore éprise de ce jeune Eustache Ignette ?»«
Oh non, je sais maintenant que je ne l'ai jamais aimé. Non, je faisais allusion à un homme auquel je me suis fiancée sur le bateau. »
Mr. Bennet se redressa sur son séant et regarda sa fille avec incrédulité. La tête commençait à lui tourner. « Ai-je rêvé ou viens-tu de me parler d'un homme auquel tu t'es fiancée pendant la traversée ?»«
Oui, c'est bien ça. » »«
Mais alors ?» Mr. Bennet, ayant compté sur ses doigts et achevé l'opération à sa grande stupéfaction, reprit « Prétends-tu me faire croire que tu as été fiancée à 3 hommes en 3 semaines ?»«
Oui, c'est exact. » »«
Nom d'un petit bonhomme ?»«
Non, seulement 3. »
Et Mr. Bennet se cala avec un gémissement dans ses oreillers.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Love for sale. Appetizing young love for sale. Still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. The poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill.
Pendant ce temps-là, Samuel se plonge dans le travail. Il ne parvient pas à oublier Billy. Un jour, elle passe lui rendre visite. Mais leur discussion est interrompue par John Peters, un ancien clerc un peu fou qui a l'obsession des rousses et se promène toujours avec son revolver. Samuel, qui se rend compte que Billy est un peu effrayé par cet homme et qui cherche à l'impressionner, demande subtilement à John d'aller la voir et de lui montrer son arme. Et ce qui devait arriver, arrive... Billy est tétanisé, Samuel vole à son secours et en bon chevalier lui redemande sa main. Mais malheureusement, Billy découvre qu'il s'est joué d'elle et charge Webster, le valet de son père, d'aller trouver Samuel pour lui annoncer leur rupture. Désemparé, Samuel demande à Webster de l'aider à la reconquérir par tous les moyens. Et Webster, qui est un grand lecteur, va lui suggérer plusieurs solutions. Chapitre 16. Le problème devant lequel nous nous trouvons, dit Webster, peut, à mon avis, se résumer ainsi. Vous avez offensé notre Miss Bennet et elle refuse de vous revoir. Comment, étant donné cet état de choses, est-il possible de la faire revenir sur sa décision ? Plusieurs procédés se présentent à l'esprit. Vous pourriez, par exemple, la sauver d'un incendie, comme dans le roman « Franc comme l'or ». Il faudrait mettre le feu à la baraque, dit Sam en réfléchissant. Oui, on pourrait creuser cette idée-là. Mais c'est un peu violent, si j'ose dire, reprit Webster. L'empêcher de se noyer, comme dans le secret du conte, serait infiniment mieux. Ah, mais où pourrait-elle se noyer ? Il y a un étang dans le parc.
Sublime, dit Sam, épatant. Je savais bien que je pouvais compter sur vous. N'en dites pas davantage, tout va bien. Vous l'emmenez faire une promenade sur le lac et vous faites chavirer la barque. Je plonge. Vous savez nager, n'est-ce pas ?
Non, monsieur.
Oh, que voulez-vous ? Tant pis, il faudra que vous vous accrochiez à la barque renversée ou autre chose. Oui, c'est un plan génial et bien réglé. Quand pourrez-vous l'exécuter ?
Je crains d'être obligé d'écarter cette idée, monsieur. Réellement, ce n'est pas ce qu'il faut. Tout d'abord, je perdrai ipso facto ma situation.
Oh, zut pour votre situation. Vous n'êtes tout de même pas Premier ministre. Vous en trouverez une autre très facilement, voyons. Une perle comme vous, dit Sam avec égoïsme.
Non, monsieur, repartit fermement Webster. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu la phobie de l'eau. Je ne peux même pas ramer sans être indisposé.
L'image de Webster ramant était assez remarquable pour retenir pendant quelques secondes l'attention de Sam.
« Alors j'y renonce, » dit-il d'un air désabusé. « Il est inutile que je fasse des suggestions si vous trouvez toujours une objection. »
« Je voudrais, monsieur, » dit Webster, « trouver un moyen qui ne m'impliquerait pas personnellement. Avez-vous lu « Les sentiers du hasard » de la collection Jonquille ? » Figurez-vous qu'il y a un malentendu entre le héros et l'héroïne. Elle lui avait enjoint de la laisser tranquille, et que pensez-vous qu'il fit ?
Comment diable voulez-vous que je le sache ?
Il enleva son petit frère qu'elle adorait, le séquestra, puis le lui rendit. Elle fut si heureuse qu'elle en oublia tous les griefs qu'elle avait pu avoir contre lui. « Monsieur, si vous m'autorisez à m'exprimer ainsi, nous avons tapé dans le mille. Miss Bennet n'a pas de petit frère. » Mais elle a un chien qu'elle aime énormément.
Sam le regarda avec stupeur. À l'expression satisfaite de Webster, il était clair qu'il s'imaginait avoir émis une suggestion d'une intelligence exceptionnelle. Mais Sam jugeait qu'il n'avait encore rien entendu de plus idiot. Ainsi, d'après vous, je devrais lui voler son chien.
Précisément, monsieur.
Mais sapristi, connaissez-vous ce chien ? Celui dont les aboiements sont aussi bruyants qu'une sirène de paquebot et dont les 85 dents au minimum sont aussi affilées que des rasoirs ?
J'ai prévu cette objection, monsieur. Dans les sentiers du hasard, le héros était aidé d'une nurse qui se chargeait de droguer l'enfant.
Par Jupiter, fit Sam impressionné. L'affaire commence à prendre tournure. Vous êtes tout simplement un génie.
Oh, monsieur est trop indulgent.
Non, vous êtes un type formidable. Vous avez trouvé là un plan magnifique, génial.
Oh, monsieur me flatte.
Webster, je serai dans le parc de Windles à 8h moins le quart. Est-ce assez tôt ?
Certainement, monsieur.
Et à propos de ce soporifique, n'y allez pas trop fort, je ne voudrais pas que vous tuiez cette petite bête.
Le soir même, Samuel se rend donc à Windles pour mettre en œuvre son plan. Mais malheureusement, il commet une grosse erreur. Plongé dans le noir et pensant appuyer sur un bouton d'éclairage, il déclenche par mégarde une musique qui envahit tout Windles. C'est l'adieu de Tosti qui finit de réveiller tous les locataires. Paniqué, Samuel opte pour la solution la plus simple, se cacher dans une armure postée à l'entrée et attendre que tout le monde remonte se coucher. Mais rapidement, le hall se remplit et il lui faut rester immobile et silencieux. Mené par la courageuse Jane Hubbard, Mr. Bennet, Billy, Eustache, qui s'est entre-temps fiancé à Jane, Mr. Mortimer, Brim et Miss Enid, qui est rentrée d'Amérique, sont bien décidés à confondre le ou les intrus. Les voici tous juste à côté de l'armure où se cache Samuel. Chapitre 17. Dans le hall, Jane Hubbard avait pris la direction des opérations. « Je crois que ces cambrioleurs se cachent quelque part et il faut que nous fouillions la maison de fond en comble. La première chose à faire est de parcourir les pièces du rez-de-chaussée. Je vous précéderai tous puisque j'ai un fusil. » Elle s'arrêta pour frotter une allumette contre l'armure la plus proche, procédé qui arracha un cri d'horreur à Mrs. Hignett, et alluma une cigarette. Puis elle lança une bouffée de fumée. « Chum !»«
Quoi ?» dit Jane.
« Je n'ai rien dit, assura Mr. Mortimer. « Qui suis-je pour oser parler ?»«
Mais quelqu'un a pourtant bien parlé, affirma Jane.
« Achoum !»«
Mr. Bennett, cria Jane en faisant volte-face, si vous avez un courant d'air dans les jambes, éternuez une bonne fois et je continuerai ensuite. »
« Mais je n'ai pas éternué, répliqua Mr. Bennett.
« Quelqu'un a pourtant éternué, dit Jane. »
Elle s'interrompit brusquement. Dans ses yeux brillait la lumière de la vérité. Sur sa figure se répandait cette expression inspirée qu'elle prenait toujours au moment de l'action. « Oh !» fit-elle d'une voix changée, froide, dure et sinistre. « Oh, je vois !» Elle leva son fusil et posa son index musclé sur la gâchette.
« Sortez de là !» ordonna-t-elle. « Sortez de cette armure et laissez-nous voir un peu qui vous êtes. »
Je vais tout vous expliquer, dit une voix assourdie à travers la visière du casque.
La fumée de cigarette lui ayant de nouveau chatouillé les narines, Sam suspendit le cours de ses remarques.
« Je compterai jusqu'à trois, dit Jane Hubbard. Un, deux... »«
J'arrive !» cria Sam. « Mais je ne peux pas ôter ce casque de malheur.
Si vous ne sortez pas immédiatement, je tire dessus pour vous l'enlever. »
Sam fit alors son apparition.
« Oh les mains !» commanda Jane. « Mais je les ai !» riposta Sam avec humeur en essayant d'arracher son disgracieux couvre-chef. « Inutile d'enlever votre chapeau, dit Jane. Ce que nous voulons savoir, c'est ce que vous faites dans cette maison à 7 heures de la nuit et qui sont vos complices. Courage, mon garçon. Êtes-vous une bande ?»«
Est-ce que j'ai l'air d'une bande ? Je m'appelle Marlowe, Samuel Marlowe.
Alias quoi ?»«
Alias rien du tout. » Un rugissement de fureur éclata dans la direction de Mr. Bennett.
« Le gredin, je le connais, lança-t-il. »
Puis ce fut au tour de Mrs. Hignett.
« Est-ce que vous êtes mon neveu Samuel ?»«
Oui, répondit Sam. Et j'ai pénétré dans cette maison dans un but philanthropique. Je suis venu demander des nouvelles du pauvre Stache. J'avais entendu dire qu'il avait attrapé des oreillons. »«
Il va beaucoup mieux, répondit Jane attendrie. Et d'ailleurs, Stache et moi sommes fiancés, vous savez ?»«
Non, vraiment, c'était pas tant. Je ne vous vois pas distinctement. Impossible de comprendre comment cet Olibrius de l'Antiquité pouvait arriver à se pugiler avec des trucs pareils sur la tête. Mais vous m'avez tout l'air d'une bonne fille. J'espère que vous serez très heureux. »
« Nous sommes tout à fait hors de sujet, » interrompit Mrs. Hignett, qui avait écouté avec irritation cet échange de politesse. « Pourquoi dansiez-vous dans le hall ?»«
Allons, » intervint Jane. « N'assommez pas ce pauvre garçon. Prêtez-lui plutôt une clé de boîte à sardines pour qu'il puisse sortir de sa prison. »
« Je ne bougerai pas mon petit doigt pour l'aider, » dit Mrs. Hignett. « Je ne l'ai jamais aimé et je le déteste maintenant. Il s'est mis lui-même dans tout cet imbroglio. Qu'il s'en sorte tout seul. »
« Entendu, » dit Sam, révolté. « Ma dignité m'empêche d'abuser plus longtemps de votre hospitalité, tante Adeline. Je suis sûr que le forgeron du patelin arrivera à m'ôter ce fichu serre-tête et je vais le trouver de ce pas. Je vous renverrai le casque par la poste le plus tôt possible. Bonsoir. »
Il marcha résolument vers la porte.
« Et il y a des gens, remarqua-t-il avec amertume, qui disent que les liens du sang comptent pour quelque chose. Je parierais qu'ils n'ont jamais eu de tante. »
Il trébucha contre le paillasson et disparut dans la nuit.
Call up, ring once, hang up the phone to let me know if you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover.
mind when we should meet. Just pass me by, don't even speak. You know the words discreet. With part-time lover. But if there's some emergency, I have a male friend to ask for me. So then she won't peek. It's you, my part-time lover.
Et pour conclure, voici la toute fin du livre. Samuel a claqué la porte de Windows. Billy et Brim, de leur côté, sont partis chercher la voiture pour le rattraper. Mais l'engin ne démarre pas. Brim s'en va donc actionner la manivelle et pendant ce temps, Samuel réapparaît, monte dans l'auto, la démarre et s'enfuit avec Billy. Laissez-moi descendre, dit Billy. Vous vous feriez du mal à cette vitesse-là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Rouler jusqu'à ce que vous me promettiez de m'épouser. Connaissez-vous l'Écosse? Puisqu'il faut que nous allions quelque part, autant pousser dans cette direction-là. Billy le regarda avec stupeur. Seriez-vous fou, par hasard? Oui. Oui, je suis fou de vous. Et si vous saviez ce que j'ai fait pour vous cette nuit, vous seriez plus aimable. Je vous aime, continua Sam en faisant un brusque écart pour éviter un lapin. Et qui plus est, vous le savez. Voilà qui m'est parfaitement égal. Jamais je ne pourrai vous pardonner. Pourquoi n'irions-nous pas en Cornouailles, proposa Sam, cette riviera de l'Angleterre. Allons, en route pour les Cornouailles. J'espère que vous aimez l'auto parce que nous allons continuer ainsi jusqu'à ce que vous me pardonniez. Est-ce que mon casque est droit? Billy ne répondit pas. Elle regardait devant elle la route bordée de haies. Elle venait de faire la curieuse découverte qu'elle se mourait d'envie de rire. Cette randonnée dans la nuit était si inattendue et si cocasse que tout son ressentiment s'était évanoui. Pourquoi portez-vous cet instrument-là sur la tête? Purement et simplement parce que je ne peux pas l'ôter. Mais pourquoi l'avez-vous mis? C'est toute une histoire, j'étais... Bref, pour en revenir à ce que nous disions, voulez-vous m'épouser? Billy appuya son menton sur sa main et scruta pensivement les ténèbres. Voulez-vous m'épouser? La voiture accéléra. Voulez-vous m'épouser? Dit Sam avec persévérance. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous m'épouser? Oh, ne faites pas le perroquet, cria Billy. Faut ressembler à Brim. Mais voulez-vous m'épouser? Oui, dit Billy. Sam arrêta brusquement l'auto. Manœuvre évidemment très préjudiciale aux pneus. Vous avez bien dit oui? Oui. Chérie de mon cœur, dit Sam en se penchant vers elle. Oh, maudit soit ce casque! Il m'empêche de vous embrasser comme je le voudrais. Laissez-moi essayer de vous l'enlever. Baissez la tête. Ça vient. Voilà. Ah, comme les hommes sont peu pratiques. Oui. Il faut qu'une femme veille tendrement sur nous, dit Sam en déposant le casque sur le plancher de la voiture et en frictionnant ses oreilles endolories. Oh, Billy, vous êtes un ange. Et vous, Sam, un amour. Mais vous aurez besoin qu'on vous tienne un peu la bride, dit Billy sévèrement. Vous le ferez quand nous serons mariés. Quand nous serons mariés, répéta-t-il avec ivresse. C'est vraiment trop beau. Allons, en route. Dans les arbres qui bordaient le chemin, les petits oiseaux manifestèrent par des gazouillis désapprobateurs leur dépit d'avoir été réveillés de leur doux sommeil. S'ils avaient su pourtant à quelle épreuve ils venaient d'échapper. Non, le pire ne leur était pas arrivé. Car Samuel Marlowe, tout à son amour, s'était abstenu de chanter.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Pascal Bénard, a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menahem. Bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine.